سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسينا لله، الحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est en train de parler des lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyées à tous les rois de son époque, de proximité, bien sûr, les gens qui étaient à proximité de l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Al-Najashi, le Négus, le roi de l'Éthiopie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Al-Muqawqis, le roi de l'Égypte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Héraclès, le roi de Damas et de toute la région, les Romains, ce qu'on appelle les Romains, c'est à cette époque-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi envoyé d'autres lettres dans d'autres régions. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Hawda ibn Ali. On a aussi, il a envoyé Kisra. Kisra, c'est le roi de l'Iran à l'époque des Perses. Et donc, on a vu que les réponses n'étaient pas les mêmes, que certains ont répondu d'une manière diplomatique, gentille, comme Héraclès, comme Al-Muqawqis. D'autres, comme Kisra, a déchiré le livre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, d'autres étaient neutres. Hawda ibn Ali, sahib al-Yamam, le roi de Al-Yamam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a écrit une lettre. C'est un arabe. من محمد رسول الله إلى هودة بن علي سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافل. Il dit, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun doute que l'islam va s'élargir et devenir la religion de toute la région. Il lui dit, fa'alam, sache que ma religion, la religion de l'islam, sayabhar, elle va dominer. Il a muntahal khufi wal-hafib, c'est-à-dire, elle va arriver jusqu'à la fin de la possibilité de la marche humaine ou de la marche sur une monture. Al-khuf, c'est quoi? Al-khuf, c'est ce que l'être humain met pour marcher. C'est les chaussures, on va dire, de l'époque. Donc, c'est soit l'humain qui marche, soit al-hafir. Al-hafir, c'est les pieds des montures, des chevaux et des chamelles. On dit al-hawafir. D'accord? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette annonce. Il a annoncé à tout le monde que la religion va dominer toute cette région-là. Et, subhanallah, moins de 30 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 30 ans après la mort, l'islam est arrivé jusqu'en Afrique. Juste 30 ans. Hein, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, toute l'Arabie était musulmane. L'islam est arrivé partout en Arabie. Maintenant, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Omar al-Khattab est devenu calife, ben, l'Égypte est devenue musulmane. L'Égypte, une partie de l'Afrique. Et quand Uthman est devenu calife, radiallahu anhu, ben, le Maghreb est devenu musulman. Et quelques années après, l'Espagne est devenue musulmane. Et on ne parle pas de l'autre côté, jusqu'à presque la Chine, tout ça. Donc on voit la progression fulgurante de la religion musulmane. Jusqu'à aujourd'hui, les historiens n'arrivent pas à expliquer comment l'islam, en quelques années, les autres civilisations, ça en prend des siècles et des siècles pour que cette expansion. L'islam, en quelques années, ben, il a exploré le monde, presque le monde entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Fa'aslim taslam, wa'aj'alu laka ma tahta yadik » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, redeviens musulman, tu seras en paix et tu garderas ton pouvoir. L'islam n'est pas venu pour prendre le pouvoir. Il a dit, tu gardes ton pouvoir, juste que tu appliques les règles de l'islam et tu deviens et tu gardes ton pouvoir. On n'est pas là pour prendre le pouvoir des gens. Wa aj'alu laka ma tahta yadik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Sulayd ibn Amr al-Amiri. Quand Sulayd est arrivé à Hawda, bihad al-Kitab, donc bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toujours, il avait une bague où c'est écrit Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de mettre son sceau pour savoir que ce livre-là est authentique. Quand Hawda a entendu ce livre-là, il dit « Ma ajmala, ma ahsana ma tad'u ilayhi wa ajmala » Donc, ce que tu dis, c'est quelque chose de bien, on l'accepte. « Wal arabu tahabu makan » Donc, il dit « J'ai une place chez les Arabes de mon époque. » Moi, c'était en Irak. « J'ai quelque chose, j'ai une place et je suis quelqu'un de connu. Mon pouvoir s'étale de tel endroit à tel endroit. Je suis quelqu'un de connu. J'accepte de devenir musulman, mais j'ai une condition. J'ai une condition. C'est qu'après ta mort, ya Mohammed, je serai moi le responsable et je porterai en quelque sorte le flambeau de l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a... Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait une condition, c'est que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va devenir le chef des musulmans, en quelque sorte. Vous voyez, sa condition, c'était celle-ci. Et il donne des cadeaux aux messagers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné des habits de grande qualité. Donc, c'était quelqu'un qui... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la lettre. Et quand il l'a lue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wallahi law sa'alani qit'atan min al-ardi ma a'taytuhu iyya » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était clair. Et ça, c'est un point très très important dans notre religion. Celui qui veut suivre la religion pour gagner de l'argent ou pour avoir le pouvoir ou pour quelque intérêt personnel, Allah n'accepte pas de lui. La religion, pourquoi on suit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce que c'est la vérité. Et c'est parce que Allah nous a promis le paradis. C'est ça. C'est lui qui te dit, oui, je deviens musulman, mais j'ai une condition, c'est que je veux avoir ça. Ça, c'est pas sincère. On ne suit pas la religion d'Allah pour de l'argent. On ne suit pas la religion d'Allah pour une position. On ne suit pas la religion d'Allah pour avoir le pouvoir. Celui qui a l'intention, quand il suit la religion d'Allah, d'avoir le pouvoir, ou d'être un homme connu, ou de gagner de l'argent, Allah n'accepte pas sa religion. Allah n'accepte pas son engagement. Et souvenez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, et quand il cherchait un peuple pour l'héberger, avant qu'il rencontre les Médinois, les jeunes Médinois, les six jeunes Médinois, avant de les rencontrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré une tribu, une grande tribu de l'Arabie, qui avait un grand pouvoir. C'était des gens qui pouvaient vraiment porter l'islam. Et ils avaient une condition. Ils ont dit, ben Mohammed, nous on peut te prendre avec nous. On s'engage de te défendre. On s'engage de propager ta religion. Mais on a une seule condition. Le prophète leur a dit, c'est quoi la condition? Ben, après ta mort, c'est nous. Ça revient à nous. Nous serons les dirigeants, les patrons. Après toi, c'est nous. Est-ce que le prophète s'en accepte? Non, moi je ne veux pas que celui qui suit ma religion pour avoir le pouvoir, pour avoir une position, pour avoir de l'argent. Et souvenez-vous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijra de la Mecque vers Médine, quand il s'est installé à Médine, il y avait une femme musulmane qui est venue avec le prophète, avec les musulmans, s'installer à Médine. Une jeune femme. Il y avait un homme amoureux de cette femme-là, qui habitait la Mecque. Et quand il a entendu que cette femme est partie, elle est musulmane, et elle a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle quitte la Mecque pour aller à Médine, s'installer à Médine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses bagages, Médine. Mais quand il arrive à Médine, tout le monde sait que cet homme-là n'était pas musulman, n'est pas venu pour Allah et son prophète. Il est venu parce que il voulait suivre une femme qu'il aime. C'était son seul objectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith. Et le hadith, vous connaissez tous. Le premier hadith de Sahih al-Bukhari. Le premier hadith que vous trouvez dans Riyad al-Salihin. Le premier hadith que vous trouvez dans Sahih Muslim. Tous les livres de hadith commencent par ce hadith. Parce qu'il est fondamental. Rapporté par Omar ibn Khattab, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِامْرَأَةٍ يَنْكَحُهَا لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ. Hadith que chaque musulman doit connaître par cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Les actes ne valent que par les intentions. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Et à chaque homme ou à chaque femme de ses œuvres, que les œuvres qui sont sincères. Si tu fais une partie de tes œuvres pour Allah et une partie pour les gens, Allah n'accepte pas tes œuvres. Allah n'accepte pas d'avoir un associé. Allah accepte les œuvres sincères. D'accord ? إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Chacun sera rétribué selon son intention. Si tu te convertis à l'islam juste pour te marier avec une femme, tu auras la femme, mais tu n'auras pas l'islam. Sauf si Allah te guide par la suite. On connaît des cas où peut-être qu'ils se sont mariés au début pour se marier, ils sont convertis pour se marier, Allah les a guidés par la suite. Ça existe, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Mais l'intention initiale, elle est fondamentale. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ
les dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Celui qui immigre, l'immigration c'est un acte fisabilillah, il doit être fisabilillah. Si tu le fais pour une femme que tu veux épouser, ou dunya, un bien que tu veux gagner, ben, tu n'auras de ta hijra que ça. Si tu as gagné, tu n'auras que ça. D'accord ? Par contre, celui qui a immigré fisabilillah, il aura la récompense à en dire. Et le jour du jugement dernier, Allah jugera les gens. Certaines personnes viendront vers Allah subhanahu wa ta'ala en disant, ya Allah, j'ai fait, j'ai appris le Coran, j'ai enseigné, j'ai lutté pour toi, ya Allah. Et Allah leur dit, Hédette, tu es un menteur, tu n'as pas fait pour moi. Et Allah lui sort, parce que ça c'est l'intention. Allah lui dit, regarde, tu as fait ça pour que les gens disent de toi, ah, oh, un tel il parle bien, un tel il fait bien les choses, un tel il est pieux, un tel il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit, faqad qil, les gens ont déjà dit, ça y est, tu as eu ta récompense dans ce moment. Tu cherchais quoi? La notoriété? Tu cherchais d'être connu? Tu cherchais d'être célèbre? Tu cherchais de l'argent? Tu cherchais... Tu l'as eu dans ce bas-monde, donc chez moi, tu n'auras absolument rien. Et ça fait peur. Ça fait peur dans le sens où on doit toujours rectifier nos intentions. Avant d'agir, tu dois purifier ton intention. Tu le fais fisabilillah. Avant de faire quelque chose, quoi que ce soit, dans notre religion, avant de faire quoi que ce soit, j'essaie de purifier mon intention. Et en faisant quelque chose, tu es en train de faire, de temps en temps, tu te rappelles. Attention, pourquoi je fais ça? Et tu renouvelles ton intention qui s'habilite. Parce que le shaitan, peut-être au début tu étais sincère, mais au fur et à mesure que tu avances, le shaitan vient perturber ton intention. Il va te changer ton intention. Il va te dire, ah regarde comment tu es devenu quelqu'un. Il va te donner où? Il va changer ton intention dans le sens du matériel. Ah, tu peux voir ça, tu peux avoir ça. Alors que ta intention initiale, c'était fisabilillah. Donc, au milieu de l'action, tu dois renouveler ton intention. Dire, je le fais fisabilillah. Et Allah accepte. Et s'il y a quelque chose, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et tu renouvelles ton intention fisabilillah. Tu fais fisabilillah. D'accord ? Et à la fin de l'action, n'attends pas que les gens te disent merci. Ou te disent, ah, tu as bien fait. Hein ? Ça, ils le disent ou ils ne le disent pas, ça ne change absolument rien parce que toi, tu ne l'as pas fait pour les gens. Tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou quand les gens te critiquent, tu dis, allez, puisque les gens m'ont critiqué, j'arrête, je ne fais rien. Là aussi, c'est pas, ça veut dire, celui qui arrête quand les gens le critiquent, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il donne plus d'importance à la parole des humains qu'à ce que Allah compte, n'est-ce pas? Est-ce que tu étais capable d'arrêter tout ce que tu faisais parce que les gens t'ont critiqué? Ben, tu ne le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu le faisais sincèrement pour Allah, mais tu n'arrêtes pas. Tu continues à faire même malgré les critiques. Et les éloges aussi, ça encourage. Les éloges peut-être, ça t'encourage, c'est pas grave. Mais il ne faut pas s'attendre à les gens m'ont pas fait d'éloges, donc j'arrête. Quand tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense ultime, elle est là-bas. Tu l'attends auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette notion de sincérité, pourquoi on agit, pourquoi on fait fisabilillah, pourquoi on fait des actions, c'est fisabilillah. Si tu fais quelque chose en attendant un bien matériel ou une célébrité ou quelque chose de cette nature, Allah n'accepte pas de toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ferme, malgré la gentillesse de ce roi, malgré son action. Il a donné des cadeaux au messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des habits, quelqu'un de... Mais malgré tout ça, le prophète a dit, « Wallahi, s'il me demande ne serait-ce qu'un morceau de terrain, je ne lui aurais pas donné. » Parce que la religion ne s'achète pas. Tu veux devenir musulman, tu le deviens sincèrement ou rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas négociable pour lui, cette notion. والله لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت باد وباد ما في يديه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة مات. Une année après, le prophète sallam a dit une dua contre lui. Bada, bada, c'est-à-dire qu'il soit anéanti, wa bada ma fi yadayhi. Bada, c'est-à-dire anéanti. Bada yada, bada, bada shay, c'est disparaître. D'accord. Bada wa badat wa bada ma fi yadayhi, ce qu'il a entre les mains. Une année après, Jibril descend du ciel pour lui dire que Hawda est mort. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن اليمامة سيخرج منها كذاب يتنبأ دونك يقتل بعدي فقال قائل يا رسول الله من يقتله قال أنت وأصحابك إيسيتي فغي اليمامة كي تاباريو دو اليمامة أبخي القبط صلى الله عليه وسلم كلكان كي بخيطون لا بروفيسي مسيلمة الكذاب مسيلمة الكذاب. Il est apparu où? Où? Al-Yamama, à cet endroit où il y avait Hawda, le même roi. Donc, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant, Musaylama envoie une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ya Muhammad, toi tu es un prophète, moi aussi je suis un prophète. Hein, t'as reçu la lettre de la part de Dieu, moi aussi, hein, peut-être Dieu ne te l'a pas dit, mais il me l'a dit à moi. Et c'était quelqu'un... un menteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Musaylama al-Kadhdhab. Al-Kadhdhab, c'était un menteur. Et il a été tué par les musulmans par la suite. Donc, ça c'est la lettre à Sahib al-Yamam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Al-Harith ibn Abi Shamr al-Ghassani, Sahib Dimashq. كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم donc Héraclius quand il avait le royaume des Romains, c'était le roi de tous les Romains, mais il mettait dans chaque ville un petit roi arabe parce que le Rassaniyot c'était des Arabes, donc à la limite de son royaume il avait quelqu'un qui s'appelait Al-Harith ibn Abi Shamr. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a envoyé une lettre lui aussi. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدق وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. القبط صلى الله عليه وسلم أنبوي شجاع الوهب من بني أسد بن خزيمة ولما أبلغه الكتاب قال من ينزع مني ملكي Il voulait prendre une armée pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avant par la bataille de Mu'ta et la bataille de Tabuk par la suite. On va les voir ensemble, inshallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé aussi une lettre au roi de Oman. Oman jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est Oman que vous connaissez aujourd'hui, juste à côté des Émirats. Oman, c'est un pays où il a la frontière avec lui, en bas du Yémen. À l'ouest, c'est l'Arabie Saoudite et l'Iran en face. Ils ont la mer. C'est un très très bon pays. Moi, je l'ai visité. Oman, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup pour le tourisme musulman. Ça vaut vraiment le coup, Oman. C'est magnifique. Les gens sont tellement gentils là-bas. Subhanallah, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir maintenant. Les gens sont tellement accessibles, tellement gentils, machallah. C'est un très très bon pays pour celui qui veut faire du tourisme islamique. Les endroits sont magnifiques. C'est Oman, c'est un pays magnifique. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrit à Jaïfa wa khuhu bani al-Jandali. Prophète écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Min Muhammad ibn Abdillah ila Jaifar wa Abda bani al-Jandali. Donc, ces deux frères, ils se partageaient pratiquement le royaume. D'accord. Même si Jaifar c'était le roi, mais son frère c'était comme lui. Donc, c'était Salamun ala man ittaba al-huda. Amma ba'd, fa inni ad'ukuma bi di'ayat al-Islam. Aslima taslama
فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما. Si vous acceptez l'islam, restez. Vous avez le pouvoir sur vous, continuez à exercer votre métier, votre. Mais avec les règles de l'islam. Attention, avec les règles de l'islam. وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل وخير تحمل تحل بساحتكما وتظهر النبوة على ملككما. Donc si vous refusez, votre royaume va disparaître et il y aura des gens qui vont vous remplacer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était clair sur ça. واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص. Vous connaissez عمرو بن العاص, c'est l'un des plus les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Amr, il dit lui-même, kharajtu, je suis sorti, quand je suis arrivé ila Oman, falamma qadimtuha amadtu ila abd wa kana ahlam ar-rajulayn. Donc il dit, j'ai pas commencé par le roi lui-même, je suis parti voir son frère. Amr, c'est un homme, on dit duhatul arab. Duhat, c'est les hommes les plus intelligents, et Amr en fait partie. Amr ibn al-As. C'est pas Omar ibn al-As, c'est Amr ibn al-As. Vous avez Omar ibn al-Khattab et Amr ibn al-As. Et vous avez deux Abdullah, des grands savants musulmans. Vous avez Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Amr. D'accord ? Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Amr. L'un est le fils de Amr ibn al-As, lui, et l'autre c'est le fils de Omar ibn al-Khattab. Et les deux étaient des grands savants musulmans. Parmi les jeunes musulmans qui sont nés au début de l'islam et qui sont devenus par la suite des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Amr, il n'a pas commencé par le roi. Il avait une mission, donc il s'est dit, je vais voir d'abord son frère. Parce que tout le monde sait que son frère était plus doux, hein, plus diplomatique que son frère. Donc il va commencer par lui. Faqultu, il lui dit au frère, Inni Rasul Rasulillah. Je suis le messager du messager d'Allah. Je suis l'envoyé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ilayka wa ila akhik. A toi et à ton frère. Faqala, akhi al-muqaddamu alayya bis-sinni wal-mulk. Donc il dit, mon frère, c'est lui le roi. Il est plus grand que moi. Et je vais t'amener pour le voir. Wa ana usiluka ilayhi hatta yaqra'a kitabaka. Thumma qala, wa ma tad'u ilayhi. C'est quoi, tu veux quoi? Tu veux appeler à quoi? قلت أدعو إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن محمد رسول الله عبد الله ورسوله. قال يا عمر, apparemment il le connaissait avant parce que Amr il voyageait énormément. وإنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك. Donc il dit وإنك ابن سيد قومك. Toi يا عمر, tu es l'enfant d'un homme noble de ton peuple, de Quraysh. Ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Mais son père, le père de Amr, ibn al-As, il est mort non-croyant. Il était contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, il va s'en aller à Abu. Fa'inna lana fihi qudwatun. On va le prendre comme exemple. On va prendre ton père comme exemple. Vous voyez la stratégie. Qultu mata wa lam yu'min bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ووددت أنه كان أسلم وصدق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال فمتى تبعته؟ قال قريبا. فسألني أين كان إسلامه؟ قلت عند النجاشي وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. Donc il pose des questions, il veut savoir. Il lui dit, ton père est mort non musulman. Il me dit, oui, mon père est mort non musulman, mais j'aurais aimé que mon père embrasse l'islam. Il lui dit, toi, tu es devenu musulman quand? Quand est-ce qu'Amr ibn al-As est devenu musulman? Il dit, ah non. Il est devenu musulman la 6e année. Et là, on est en la 7e année, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à envoyer les lettres. On est au début de la 7e année. Donc, Amr ibn al-As, ça fait que quelques mois qu'il est devenu musulman. Il dit, Amr ibn al-As, et j'aurais aimé devenir musulman bien avant. Il a informé que Al-Najashi, le Négus, a aussi cru. Il est devenu musulman. Qala anzur ya Amr, يا عمرو خدع، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. يا عمرو fais attention. J'espère que tu ne mens pas. Parce que il n'y a pas un défaut pire que le mensonge. Si tu me donnes cette information que Najashi même est devenu musulman, et c'est quelque chose. Dans notre religion, le mensonge est haram. Je ne peux pas mentir. Même si je suis en face d'un non-musulman. Parce que le mensonge est interdit pour moi en tant que musulman. D'accord ? Moi, je ne peux pas mentir. Même si mon interlocuteur n'est pas musulman. Parce qu'il y a certains qui vont te dire, puisque ce n'est pas un musulman, tu peux mentir. Ou tu peux voler. Ou tu peux faire. C'est, qui t'a dit ça ? C'est écrit où ? Toi, tu es musulman. Ton comportement, Allah te l'impose à toi, quel que soit l'adversaire, quelle que soit la personne en face. Est-ce que tu trahis ta parole avec les non-musulmans ? Parce que c'est un non-musulman, tu trahis ta parole, tu lui fais des mensonges ? Non, Allah ne nous a pas dit « Soyez véridiques avec les musulmans ». Allah nous a dit « Soyez véridiques ». Quand Allah nous a dit d'être digne de confiance, « l'amana » avec les gens, il n'a pas dit « avec les musulmans ». Donc nous sommes véridiques parce que Allah nous a demandé. Que la personne en face soit une bonne personne ou une mauvaise personne, ça la regarde. Mais moi, ça me regarde d'être véridique, d'être un homme bon, d'être un homme digne de confiance. Omar, il dit, Amr ibn al-As, il dit, la yahillu dhalika fi dinina. Je ne peux pas mentir parce que ça, c'est interdit dans notre religion de mentir. Alors Amr ibn al-As, il a menti auparavant, n'est-ce pas ? Il a menti quand il est parti chercher les musulmans en Abyssinie. C'était lui, Amr ibn al-As. Quraysh l'a envoyé pour aller voir le Négus pour lui dire de renvoyer les 80 familles musulmanes qui sont venues s'installer en Éthiopie parce qu'ils ont quitté leur peuple, ils ont fait. Mais le Négus était un homme juste, il ne les a pas renvoyés. Donc, والله ici قال عبد فأخبرني ما الذي donc il lui a posé une question sur Hiraql aussi, est-ce que Hiraql est devenu musulman ou non. Amr il répond concernant Hiraql qu'il a bien répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait une enquête, il voulait vraiment savoir tout ce qui se passe parce que l'islam se propage rapidement. قال عبد, on est toujours avec le frère du roi. Le roi, on ne l'a pas encore rencontré. قال عم فأخبرني ما الذي يأمر به وما الذي ينهى عنه. Informe-moi au sujet des choses qu'il ordonne et des choses qu'il interdit. Il dit قلت يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته. Il ordonne qu'on obéisse à Allah et interdit qu'on désobéisse à Allah. ويأمر بالبر وصلة الرحم. Il leur donne al-bir. Al-bir, c'est la bonté. C'est la bonté. Silat al-rahim, c'est les liens de parenté, les liens du sang. Wa-yanha anil-dhulm. La chose la plus importante dans les yeux des compagnons, c'est quoi ? C'est le dhulm. Allah subhanahu wa ta'ala interdit le dhulm. Le dhulm, c'est la pire des choses. L'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qu'Allah n'aime pas. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et j'ai fait de l'injustice quelque chose qui est interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc الظلم. Et regardez comment les compagnons ont compris cela. Ont compris que la première chose que l'islam interdit, c'est quoi ? C'est le dhulm. Un dhulm, c'est la pire des choses. Quand quelqu'un est injuste avec son peuple, ou quelqu'un est injuste avec ses enfants, ou quelqu'un est injuste avec sa femme, ou une femme est injuste avec son mari, cette injustice,
banales que peut-être on va rencontrer dans notre vie de tous les jours. Allah déteste l'injustice. Allah déteste l'injustice. Et les compagnons ont bien compris. Quand tu lui as dit, qu'est-ce qu'il interdit? La première chose, c'est le volm. Il interdit le volm. Ou le udwan. C'est quoi le udwan? Ya'tadi. Ya'tada. Ta'da. Ta'da.
Lui.
Les.
Les ennemis.
Oui. L'adou, c'est l'ennemi. L'udwan, c'est quoi? C'est l'animosité. Hein? Le fait d'être agressif. L'agressivité. L'udwan, c'est l'agressivité. C'est de s'en prendre aux gens sans raison valable. Ya'tadi. Ya'tada, c'est faire s'attaquer à quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien fait. Ya'tadi. Ya'tada. Ou l'udwan. Ou an-zina. L'adultère. Ou an-il-khamr. Le vin. وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. Il interdit d'adorer الحجر, les pierres, الوثن, les idoles, الصليب, la croix. Donc là il قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه. عبد, c'est un homme juste, c'est un homme raisonnable. Il a dit ما أحسن هذا الذي يدعو إليه. Il appelle à quelque chose de Dieu. Il appelle à une chose belle. Ce qu'il dit, c'est beau. Son message est beau. Son message est juste. Ma ahsana ma yad'u ilayhi. Law kana akhi yutabi'uni alayhi la rakibna hatta nu'mina bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa nusaddiq bihi. Donc Abd maintenant il est acquis. Il dit si mon frère accepte, je monterai maintenant à cheval pour aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devenir musulman devant lui. Sans aucune condition. Il n'a pas dit, eh Muhammad, si tu meurs, tu me donnes et tu me donnes et on va négocier. Non. Il a dit, moi je suis convaincu. Ça, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, mashallah. Mais vous avez Amr ibn al-As, quand même, c'est un homme d'un grand calibre. Hein. Il dit, walakin, mais je sais que mon frère. أظن بملكه من أن يدعه ويصير تنبل. Il dit, mais je sais que mon frère, il aime tellement le pouvoir que je m'en doute qu'il va laisser un peu son pouvoir pour devenir un pion pour quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui exécute l'ordre de quelqu'un d'autre. D'accord? Parce que c'est un peu ça. Le professeur Hassan lui dit, tu gardes, mais tu es, en quelque sorte, tu suis les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les ordres des califes après lui. Donc lui, il a un doute, il dit, je ne crois pas que mon frère accepte cela. Qultu, in aslama mulk mallakahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala qawmih. Ah. Amr il nous dit, mais le prophète ne veut pas l'enlever. S'il veut devenir musulman, qu'il garde son pouvoir. D'accord ? فأخذ الصدقة من غني فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. Prophet صلى الله عليه وسلم le laisse au pouvoir. Il prendra la sadaqa chez les riches pour la donner aux pauvres. Zakat. Il doit juste appliquer le zakat. Il applique les règles de l'islam. C'est ça. Zakat, c'est une règle, mais d'une manière générale, il doit appliquer les règles de l'islam. قال إن هذا لخلق حسن. Très bien, il va peut-être accepter. Allez, on va le voir. Qala wa ma sadaqa? C'est quoi sadaqa? Zakat. Il demande c'est quoi zakat? Qala Omar, tu dois donner sur les chameaux, sur les vaches, sur les brebis, sur l'argent. Il va expliquer les principes de zakat. Zakat qu'on connaît. Hein, chaque musulman riche doit donner de sa zakat, n'est-ce pas? Chaque année. D'ailleurs, c'est bientôt Ashura et généralement les gens donnent pendant Ashura. Le zakat, c'est une obligation, c'est le troisième pilier de l'islam. Vous avez shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et après vous avez salat et zakat, troisième pilier. Celui qui a de l'argent qui dort, ben, il doit faire un calcul, notamment là, c'est bientôt la date de Ashura. C'est pas forcément Ashura, mais Ashura c'est un rappel. Les gens donnent zakat généralement pendant le mois de Muharram ou avant Ashura. et tu dois faire des calculs, tu calcules combien tu as, et si tu dépasses un nisab, ben tu dois donner zakat 2,5% de ce que tu as. Et chaque année, tu dois refaire le calcul. Chaque Muharram, quand Muharram arrive, et quand Ashura arrive, tu dois refaire tes calculs, tu dis combien j'ai d'argent, est-ce que ça dépasse un nisab, oui ou non, si ça dépasse, ben je donne zakat. Et le nisab, aujourd'hui, si on calcule avec l'or, c'est 10 000 euros. Mais si on le calcule avec le firda, c'est 1 400 euros. Il y a des savants aujourd'hui qui disent, puisque l'or est devenu tellement cher, on doit revenir à nisab de le firda. Le firda, c'est l'argent, l'état de l'argent. Donc on est en quelque sorte tous riches. Parce que 1 400 euros, on a tous 1 400 euros, n'est-ce pas? Et on doit, si ton argent dépasse 1 400 euros, ben, tu dois donner le zakat. Et c'est quoi le zakat? Ben, tu calcules, tu fais un calcul global de tout ce que tu as. Tu as un compte courant, tu dis j'ai combien sur mon compte courant? Allez, j'ai 1 500 euros, très bien. Tu as un compte épargne, ben, j'ai combien sur ce compte épargne? J'ai 3 000 euros, très bien. Et n'oubliez pas, si vous avez un compte épargne, chaque année la banque va vous envoyer le 1er janvier un papier avec les intérêts. Mais les intérêts là, il faut les enlever. Ça ne vous appartient pas. Je ne peux pas dire je vais payer la facture d'électricité ou je vais payer des produits pour les toilettes. Il y en a qui trouvent des astuces, subhanallah al-azim, mais c'est riba, ça c'est haram. C'est pas les produits pour les toilettes ou quoi que ce soit. C'est haram, c'est haram. Cet argent ne t'appartient pas. Tu le donnes à un pauvre. Tu le donnes à un pauvre. Tu ne le laisses pas à la banque non plus. Tu le laisses à la banque elle va le donner à des associations, je ne sais même pas où. Tu ne le laisses pas à la banque. Et si tu veux éviter les problèmes, il ne faut pas avoir un compte épargne. Il faut avoir un compte courant, tout simplement, et tu évites les problèmes. Mais si tu as un compte épargne, n'oublie pas de donner, de sortir chaque année, le mois de janvier, les intérêts que la banque t'a donné, d'accord, et de rajouter cet argent-là, chaque année, à l'argent de zakat. On a dit que tu as 1 500 euros sur ton compte, tu as 3 000 euros sur un compte épargne, très bien. Tu as 4 500 euros. Bah, 4 500 euros, ça dépasse 1 500, n'est-ce pas? Donc tu dois donner la zakat. Qu'est-ce que tu dois faire? Bah, tu vas dire, allez, j'ai la facture, ce mois-ci, j'ai pas encore payé mon loyer. Très bien, j'enlève le loyer. J'ai pas encore payé mon électricité, j'enlève l'électricité. Allez, et il me reste combien? Il me reste 2 000 euros. Bah, je donne 2,5% de 2 000 euros, je donne 50 euros. Et ça, c'est la zakat. Ça, c'est obligatoire. Si tu ne donnes pas zakat, c'est comme si tu n'as pas fait l'asr. Ou si tu n'as pas fait le dhuhr. Imaginez quelqu'un qui ne fait pas la prière. Est-ce que ça... Zakat, ce n'est pas une sadaqa. Et peut-être qu'il y a des gens, subhanallah, ils donnent peut-être la sadaqa. Souvent, ils ont des sadaqas. Mais quand c'est zakat qui est obligatoire, il oublie. Ou il dit, il ne pense pas à ça. Alors que zakat, c'est quelque chose quand même. C'est obligatoire. Donc là... Vous avez, Inch'Allah, jeudi avant jeudi, si vous n'avez jamais donné le zakat, ben ça serait une première fois que je dis, allez, avant jeudi, je vais calculer, et si ce que je possède dépasse un nisab qui est 2 400 euros, ben je donne. D'accord? Parce qu'avant, c'était 10 000 euros. Et aujourd'hui, les savants, ils ont dit que nisab, dhab, et ça, c'est une. Ça s'est fait par le conseil des ulama du Maroc. Il a aussi beaucoup de savants musulmans dans le pays musulman, quand ils ont vu que Dhahab a grimpé tellement, est devenu très très cher, et que Nisab, si on le calcule par Dhahab, c'est quelque chose qui va devenir 85 grammes d'or, ça fait quand même presque 10 000 euros, alors que 580 grammes de firba, c'est ça Nisab pour le firba. Ça fait 1 400 euros. Bon, on se base plutôt sur 1 400 euros. D'accord? Donc, Zakat. Amr ibn al-As explique Zakat à Abd, le frère du roi. Très bien. Il lui a expliqué toute Zakat. Et là, ça m'a encore encouragé. Il a vu que l'islam, ce n'était pas juste une religion. C'est une religion, quand même, divine. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une religion qui prend en considération tous les aspects de la vie, même l'aspect économique. قال إن هذا لخلق حسن ما الصدقة
فأخبرته بما فرض الله ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. وتأخذ من سوائم مواشين التي ترعى الشجرة وترد الماء. فقلت نعم. Même les chameaux qui sont libres, on doit donner les zakat dessus. Il a dit oui, bien sûr. فقال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لي هذا. Il dit je ne crois pas que mon peuple va obéir à cet ordre-là qui est zakat parce que ils ont des chameaux et ça ils ont tellement de chameaux partout. Et je ne crois pas qu'ils vont donner la zakat sur ça. فقلت نعم. فقال وما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. قال فما كنت ببابه أياما. عمرو بن العاص donc il décide de rester quelques jours. Et وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبر. Donc عمرو بن العاص n'a pas voulu rencontrer le roi directement. C'est son frère qui fait le travail. Chaque jour il lui parle, chaque jour il lui parle, chaque jour il vient vers lui pour l'appeler à l'islam. Donc là le frère est convaincu, mais le roi n'est pas encore convaincu. Donc il m'a appelé un jour, le roi, et donc je suis rentré. Je voulais m'asseoir, ils n'ont pas voulu me laisser m'asseoir. فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتي. Allez, il a dit le roi, ils l'ont même pas laissé s'asseoir, il a dit parle, pourquoi tu es là. فدفعت إليه الكتاب مختوما. Je lui ai envoyé la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le sceau de la prophétie. ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا أني رأيت أخاه أرق منه. Donc il l'a lu, il donne à son frère pour le lire. Donc là, le roi, il demande à Amr ibn al-As, « Ala tukhbiruni an Quraysh kayfa sana'at ?» Je veux savoir qu'est-ce que Quraysh a fait. Parce que Quraysh, c'est une tribu connue partout en Arabie, jusqu'au Yémen, jusqu'au Oman. Et donc, les gens, ils veulent savoir, parce que c'est un Quraishite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As, lui, là, l'émissaire, c'est un Quraishite. Il veut savoir qu'est-ce que Quraish a fait. Qala tabi'uhu imma raghiban fi ad-din wa imma maqhurun bis-sayf. Qala wa man ma'ah? Qala an-nas qad raghibu fi al-islam wa ikhtaruhu 'ala ghayri. Il lui a dit, maintenant Quraish, il y a eu des guerres, il lui a expliqué, mais maintenant Quraish, il y a beaucoup de personnes de Quraish qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le roi il dit ومن معه qui est avec lui. قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم وعرفوا بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلال. Il parle un peu de lui, Amr ibn al-As. Il dit les gens ont suivi l'islam. Ils ont compris qu'ils étaient dans l'égarement et que maintenant la majorité des gens suivent la religion de l'islam parce que ils ont compris. Ils ont raisonné, ils ont compris que l'islam était la religion de la vérité. Amr ibn al-As me dit, et toi, si tu ne deviens pas musulman aujourd'hui et tu suis le message de l'islam, un jour, les chevaux de l'islam viendront jusqu'à ici pour t'enlever ton royaume. Fa'aslim taslam. Deviens musulman, tu seras épargné. وَيَسْتَعْمِلْكَ عَلَى قَوْمِكَ. Le prophète te donne la promesse de te garder comme roi. وَلَا نُدْخِلُ عَلَيْكَ الْخَيْلَ وَالْرِجَالِ. Et tu n'auras pas à subir la guerre ou quoi que ce soit. قَالَ دَعْنِي يَوْمِ هَذَا. Il lui a dit donc, donne-moi cette journée-là pour que je puisse réfléchir. وَرْجِعْ قَدَمْ. Reste ici, demain tu reviens. Très bien. Donc Amr ibn al-As, il va voir le frère maintenant. فقال لي يا عمر إني لأرجو أن يسلم إن لم يظن بملكه حتى إذا كان الغد. Le frère il dit à Amr, j'espère qu'il devient musulman si son royaume et son pouvoir ne l'attachent pas encore. Le lendemain, Amr demande l'autorisation, on refuse de l'autoriser. On refuse qu'il rentre chez le roi. Le roi ne veut pas le rencontrer. Donc, Amr, maintenant, il passe par le frère, et le frère a réussi à faire rentrer Amr chez le roi. فَقَالَ إِنِّي فَكَّرْتُ فِي مَا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ. Le roi, il dit, Amr, j'ai bien réfléchi à ton appel. فَإِذَا أَنَا أَضْعَفُ الْعَرَبِ إِنْ مَلَّكْتُ رَجُلًا مَا فِي يَدِي وَهُوَ لَا تَبْلُغُ خَيْلُهُ هَا هُنَا وَإِنْ بَلَغَتْ خَيْلُهُ لَقَدْ قِتَالًا لَيْسَ كَقِتَالِ مَنْ دَاقَ قُلْتُ أَنَا خَارِجًا غَدًا. Donc lui dit, moi je ne crois pas que je vais donner mon pouvoir, mon royaume à quelqu'un qui est loin et je suis certain que son armée n'arrivera jamais ici. Donc Amr il dit, donc moi je vais partir demain et je vais apporter cette réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit, فَلَمَّا أَيْقَنَا بِمَخْرَجِي خَلَى بِهِ أَخُوهُ فَقَالَ. Et quand j'ai décidé vraiment de partir, les deux frères parlent ensemble. Et Abd parle à son frère, le roi. قَالَ مَا نَحْنُ فِي مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَدْ أَجَابَ فَأَصْبِحْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَجَابَ إِلَى الْإِسْلَامِ هُوَ وَأَخُوهُ جَمِيعًا. Donc, le lendemain, son frère a réussi à le convaincre. Ils ont appelé Amr ibn al-As pour lui dire, nous sommes devenus musulmans, lui et son frère. Le frère est devenu musulman avant, par conviction. L'autre, quand il a compris que c'était la religion de la vérité et qu'il fallait suivre, convaincu par son frère, ben il a... Alhamdoulilah. Regardez, ce pays-là, il n'y a aucune armée musulmane qui est partie. Aucune. Le Yémen aussi. Le Yémen est devenu musulman de cette manière-là. Les rois sont devenus musulmans, les peuples sont devenus musulmans. Il n'y avait même pas une armée musulmane qui est partie. Alors que l'Égypte, Damas et tout ça, c'était une armée musulmane qui a enlevé le pouvoir et qui a laissé la liberté au peuple. Parce que l'islam ne s'est jamais propagé par la force. Contrairement à ce qu'on vous dit. Hein. Par exemple, quand l'islam est arrivé en Égypte, l'Égypte était un pays copte, d'accord, mais gouverné par des Romains. Et les Romains imposaient énormément de règles, prenaient des impôts chez les commerçants, des impôts excessifs. Et quand l'islam est arrivé, ben l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a enlevé juste le pouvoir. Les gens qui étaient au pouvoir, il les a écartés. Et est-ce qu'il a imposé l'islam aux Coptes? Non, pas du tout. Les Coptes sont restés Coptes. Jusqu'à aujourd'hui, imaginez, 14 siècles, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a combien de Coptes en Égypte? 13 millions. 13 millions de Coptes en Égypte. C'est des chrétiens Coptes qui sont chrétiens depuis avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, istawsou bil aqbad khayra. Il dit, traitez-les convenablement. Al-aqbad, c'est les Coptes. Traitez-les convenablement. D'accord? Donc, l'islam. Ceux qui te disent que l'islam s'est imposé par la force, par l'épée, tu lui dis, regarde l'Égypte. Regardez l'Espagne aujourd'hui. L'Espagne est restée musulmane pendant combien d'années? 8 siècles. L'Espagne est restée musulmane 8 siècles. Et quand les chrétiens ont repris le pouvoir en Espagne, est-ce que vous croyez que tous les musulmans sont partis? Pas du tout. Les musulmans restaient une grande majorité, certains qui sont partis au Maroc, certains en Algérie, certains sont venus jusqu'ici en France, jusqu'à ici en France. Hein. Il y a des temples qu'on a trouvés à Nîmes, là, pas très loin, des temples et des cimetières musulmans. On a trouvé des petites mosquées. C'est qui? C'est des gens qui ont fui l'Espagne musulmane, qui se sont installés ici. Il y en a qui sont partis jusqu'en Suisse. Il y a des familles musulmanes, historiquement musulmanes, avec le nom musulman, qui sont connus en Suisse, et qui sont des commerçants musulmans qui ont pris tout ce qui est possédé
ils sont venus jusqu'en Suisse, s'installer en Suisse pour fuir, pour garder leur islam. Malheureusement, j'ai rencontré quelqu'un parmi ces gens-là que je connais jusqu'à aujourd'hui. Son nom, c'est un non-musulman. Il sait qu'il est le petit-fils d'un grand commerçant musulman qui a fui l'Espagne pour venir s'installer. Mais malheureusement, ils sont tous chrétiens. Des fervents chrétiens, hein. Subhanallah. Tu dis, hein, les gens ont fui avec leur religion, mais malheureusement, la société leur a imposé la chrétienté. C'est ce qu'ils ont fait en Espagne. La majorité des musulmans ont été forcés pour devenir chrétiens. Par la force, l'inquisition, on appelle l'inquisition. Vous connaissez l'inquisition, c'est quoi? Si on va voir les enfants, est-ce qu'ils ont la circoncision ou non? Jusqu'à ça. Et vous savez que le roi musulman, avant de quitter Grenade, la dernière, il a écrit une charte, une convention avec la reine et le roi espagnol, chrétien. 80 conditions. Il a dit oui, je vous donne la ville, je m'écarte, je vais au Maroc ou en Algérie, en Afrique du Nord, je vous donne la ville, mais j'ai 80 conditions. Moi je pars, mais j'ai des millions de musulmans qui vont rester. 80 conditions. Parmi les conditions, les mosquées restent des mosquées. Vous permettez aux gens musulmans de manger halal, vous faites ça, vous faites 80 conditions. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, aucun souci. Toutes ces conditions, on va les respecter. Juste après, il a laissé la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle a appelé le pape, elle lui a envoyé une lettre au pape, le pape des débordés. Il lui a dit, voilà, on a pris un engagement, mais on ne veut pas respecter cet engagement. Est-ce que tu nous donnes l'autorisation? Il a dit, vous avez ma bénédiction. Dis, allez-y. Vous n'avez aucune obligation à respecter. Et c'est le pape qui leur dit, ça y est, c'est 80 conditions. Il leur a dit, vous ne respectez aucune de ces conditions-là. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il convertissait les gens par an. Celui qui ne veut pas se convertir, il le tue, il prend les enfants. Et les enfants, bien sûr, sont devenus chrétiens par la force. Vous voyez un peu comment... C'est ça. Alors que l'islam n'a jamais imposé aux gens, n'a jamais contraint les gens de devenir musulmans. أَتَبَيَّنَ الرُّجْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Tu imposes aux gens, ben ça. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ أَتَبَيَّنَ الرُّجْدُ مِنَ الْغَيِّ. Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui, les gens disent exactement le contraire. Les gens cachent la tolérance et le respect qu'avait l'islam par rapport aux autres. Ils montrent que l'islam, c'est une religion belliqueuse, c'est une religion qui s'impose par la force, c'est une religion... Alors que c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Regardez juste quand Salah ad-Din est arrivé à Jérusalem, il a libéré Jérusalem. Il y avait des Français, beaucoup de Français qui sont partis de Clermont-Ferrand. Et c'était les habitants de Jérusalem. Quand ils sont arrivés, quand les croisés ont pris Jérusalem, ils ont tué tous les musulmans. Ils ont tué les enfants, ils ont tué tout le monde. On disait que les villes, les rues de Jérusalem coulaient de sang de musulmans. Quand Salah ad-Din, 200 années après, les chrétiens et les croisés sont restés 193 ans à Jérusalem. 193. Ils ont dominé. Ça y est, c'était. On disait Jérusalem, c'est fini, c'est plus musulman. Alors, comme on dit aujourd'hui. Et Salah ad-Din est arrivé. Salah ad-Din. Il a repris la ville. Salah ad-Din. Rahmatullahi alayhi. Ayyubi. Hein, c'est même pas un arabe. Hein, c'est un kurde. Il vient. Il prend la ville et il trouve la ville pleine de chrétiens. D'accord? Il leur dit, vous avez le choix. La ville va devenir musulmane. Vous pouvez rester. Vous gardez vos demeures. Vous gardez vos églises. Vous gardez votre foi. On ne vous impose rien. Malgré que c'est des gens qui ont volé cette terre. Ça ne leur appartient pas. Mais il leur a dit, vous êtes protégé. Et si vous voulez partir, il a assuré, il a mis en sécurité le chemin jusqu'au port. D'accord ? Pour leur dire, jusqu'au port, vous prenez vos bateaux et vous revenez de là où vous êtes venus. Ils sont revenus ici en France, majoritairement, d'autres à Chypre, d'autres à... Mais vous voyez comment... Et subhanallah, la réalité elle est comme ça. La réalité c'est que l'islam est une religion tolérante, une religion respectueuse des autres. On n'a jamais imposé. Alors que les autres, c'est exactement le contraire. L'histoire parle, hein, c'est des faits. Là, c'est pas, je ne suis pas en train de vous dire des choses comme ça, non. C'est des faits. Lisez l'histoire et vous allez voir. Et cette histoire-là, ce n'est pas réservé aux musulmans. Même les non-musulmans connaissent cette histoire. Elle est claire, elle est écrite. Ça, l'histoire ne ment pas. Mais maintenant, on est en train de dire le contraire. On est en train de taxer l'islam comme une religion qui s'impose par la force, alors que c'est exactement le contraire. Donc la lettre que le prophète a envoyée à Oumen, c'est une lettre qui est venue plus tard. D'accord ? C'est-à-dire que cette lettre-là, d'après certains savants, elle est même arrivée après Fathu Makkah. D'accord ? Après la conquête de la Mecque. Parce que Amr ibn al-As, quand il explique au roi, il lui a dit, même Quraysh est devenu musulman. On sait que Quraysh, quand est-ce que Quraysh est devenu musulman ? C'est après la conquête de la Mecque. Et voilà toutes les lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyées à tous les rois. Et ça nous montre quelque chose d'important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que l'islam arrive partout dans le monde. Et avant sa mort, il a accompli son devoir, sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.